Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Peut-être que vous vous demandez, depuis que je raconte tous ces albums des années 60-70, où sont passés les Français ? Eh bien aujourd'hui, je voulais consacrer l'émission justement au groupe français de rock des années 70 qui ont vainement essayé de se faire la place qu'ils auraient méritée dans la pop musique. Seulement voilà, la concurrence des artistes britanniques et américains fut trop inégale. En fait, il n'y a pas eu de passage à vide entre les chaussettes noires ou les problèmes qui accompagnaient les premiers Eddie Mitchell, les deuxièmes Antoine, et puis Téléphone qui a véritablement crevé l'écran. De 1968 à 1975, une scène pop créative a existé en France en réaction finalement aux yéyés de Claude François, Sheila, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et tant d'autres. Et ce sont eux que je vous présente ou dont je rappelle les principaux membres, en tout cas pour ce qui me concerne. Le premier que j'aborderai s'appelle Martin Circus, il a été créé en 1969. Il a d'abord été influencé par Soft Machine et Frank Zappa, qui étaient des groupes de jazz-rock essentiellement. L'autre groupe s'appelle Triangle, il a été créé en 1967. C'est le premier groupe de rock progressif français, qui a d'ailleurs été vraiment reconnu sur la scène internationale. Leur album de 1970, Peut-être Demain, est une référence. Puis nous avons eu Ange, encore un fleuron du rock progressif français. Ses fondateurs, les frères Descamps, furent influencés par Genesis et King Crimson et ont publié en 1972 leur premier album, Caricature, puis d'autres derrière dont je vais parler. Il y a eu également Zoo, qui n'a pas seulement accompagné admirablement Léo Ferré pour l'album La Solitude ou le titre Le Chien, puis a été plutôt appuyé sur la voix puissante d'abord de Joël Daïdé avant que celui-ci ne s'en aille vers d'autres horizons. Et enfin, le dernier groupe que j'aborderai, c'est Variations. Variations qui a produit une sorte de hard rock qui a bien fonctionné à une époque, permis à ce groupe de faire des tournées assez régulièrement aux États-Unis. Bref, comme vous pouvez le voir, la scène pop française comportait quelques exemples qui méritent encore une fois d'être à l'honneur aujourd'hui. Commençons donc par Martin Circus, qui fut formé en 1968 et malheureusement dissous en 1988, 20 ans plus tard. Le groupe s'est reformé brièvement en 2001 puis en 2016, mais tout ça pour donner lieu à quelques rééditions des albums d'antan. Formé donc en 1968 par le bassiste Bob Brough avec Michel Pasquet, qui par la suite deviendra Benoît Blue Boy, le saxophoniste Gérard Pisani, le batteur Jean-François Leroy et le chanteur et guitariste Patrick Dietsch. Enfin, sans oublier le chanteur et claviériste Paul-Jean Borowski. Après le départ de Michel Pasquet, le groupe se fait d'abord connaître par un premier hit, tout tremblant de fièvre. Martin Circus se distingue par des compositions originales du type rock progressif, malgré tout. Les textes sont inspirés par les poètes de la Beat Generation. Ils se produisent dans des concerts multiples, lors de festivals en France et à l'étranger, et dans des salles de plus en plus importantes, jusqu'à même jouer à l'Olympia. Puis c'est la sortie de leur album live en direct du Rock'n'Roll Circus, paru en hiver 69-70, et là, leur notoriété grandit. Mais c'est aussi le moment des changements de configuration. C'est le départ de Jean-François Leroy et de Patrick Dietsch et l'arrivée de nouveaux membres dès 1971 avec le guitariste Alain Puesner qui est capable de jouer plusieurs instruments, le batteur René Guérin, puis Sylvain Pochard au clavier et le guitariste-chanteur Gérard Blanc. C'est la configuration du groupe qui permettra son envol. Et en effet, la formation enregistre courant 71 un double album, Acte 2, dont sera tiré leur super tube Je m'éclate au Sénégal, composé par Paul Bro et qui se vendra à 800 000 exemplaires. C'était Je m'éclate au Sénégal par les Martin Circus sur Oxy Web Radio. Ce morceau bénéficiera d'un nouveau pressage en 1987 et sera repris dans le 33 tours de Gérard Blanc, Mes plus belles histoires. Ce gros travail de studio est récompensé pour Martin Circus par un Triumph Groove Musical Trophée remis lors de la nuit du cinéma organisée au Théâtre Marigny le 25 novembre 1971. En complément des concerts et des nombreux festivals où ils se produisent, Les Martin Circus assurent pendant quelques années les premières parties de vedettes de variété bien installées, telles que Jacques Dutronc, Claude Nougaro, Claude François ou encore Johnny Hallyday. Et même Tiki Olgado, ex-secrétaire particulier et ami intime de Johnny Hallyday, ainsi que Claude François d'ailleurs, deviendra leur manager de 1972 à 1974. Mais en 1971, le groupe participe au film « Les Bidas en folie » réalisé par Claude Zidi. Et en 1974, les membres du groupe Martin Circus sont à l'affiche du premier opéra rock français, La Révolution française, qui se produit pendant 2 mois au Palais des Sports de Paris, aux côtés d'Antoine, d'Alain Bachung et d'autres artistes. Ils reviennent au rock l'année suivante avec un album de reprise de titres des années 60, intitulé Numéro 1 USA, It's the 60s. Ils enregistrent à cette occasion Marilyn, qui s'écoule à plus de 600 000 exemplaires. Et c'est là encore un nouveau succès pour le groupe, qui s'est inspiré en fait d'une chanson des Beach Boys, Barbara Ann, qui est sans doute leur plus grand tube. En 1978, le titre sort « J'en perds mes baskets » et de ce qui deviendra le générique indicatif de l'émission musicale « Blue Jean 78 » sur Antenne 2. Par la suite, le groupe ne parviendra plus à se mettre en valeur dans les charts français et c'est la dissolution en 1988.
Mais tu es la plus belle, oh Marilyn, ma Marilyn, tu me fais pipop dans la tête, pipop dans le cœur, oh Marilyn, ma Marilyn, ma Marilyn, tu me fais pipop dans la tête, pipop dans le cœur, oh Marilyn, ma Marilyn.
C'était Marilyn par les Martin Circus sur Roxy Web Radio. Le groupe suivant s'appelle Triangle, c'est un groupe de rock progressif. Il a été formé en 1967 et est resté actif jusqu'en 1974. C'est l'un des premiers groupes de rock progressif français à se faire connaître du grand public à une époque où la France copie beaucoup du côté des anglo-saxons. Le groupe a quand même vendu plus de 300 000 albums. En 1967, Triangle est un trio formé par Gérard Fournier, Di Papillon à la basse et au chant, Pierre Fanen à la guitare et par Jean-Pierre Prévotat à la batterie. Cette formation sera éphémère, ne sortit aucun album. Au cours de 1968, Pierre Fanen quitte le groupe, il est remplacé par Alain Renaud à la guitare et au chant, qui d'ailleurs va l'équiper aussitôt dès le 1er août et après leur premier 45 tours qui était interprété avec des paroles en anglais. Le succès n'est pas au rendez-vous, alors arrivent François Janot au clavier et au saxophone et Paul Farge à la guitare. Cette nouvelle formation sort un 45 tours avec en face A Élégie à Gabriel qui s'appuie sur un fait divers, le suicide de Gabriel Russier, un professeur de lycée, amoureuse d'un de ses élèves. Sur la même idée, Charles Aznavour avait créé « Mourir d'aimer ». Le groupe ne tient que de fin 1969 à début 1970. Triangle change de guitariste avec l'arrivée de Marius Mimi Lorenzini. Et ce nouveau quatuor est la formation officielle du groupe, c'est-à-dire la plus durable, qui existera de 1970 jusqu'au milieu de 1973. Elle va publier deux albums. Le premier est encore chanté majoritairement en anglais. Et il sort également une poignée de 45 tours. Triangle rencontre enfin le succès avec l'un d'eux, intitulé « Peut-être demain », que le groupe interprète dans le film de Claude Zidi, « Les Bidas en fourlis, encore lui ». C'était Peut-être Demain par le groupe Triangle sur Oxy Web Radio. À l'époque, la presse oppose les groupes Triangle qualifiés d'intellectuels et les variations jugées plus insouciants, un peu à la manière de ce qui se fit la décennie précédente autour des Beatles et des Rolling Stones en Angleterre. Pour les journalistes, Triangle et Ange se partagent le titre de meilleur groupe français. François Fatton-Cahen de Magma et Jean-Michel Jarre participent au deuxième album de Triangle, communément appelé « Viens avec nous ». Du titre phare de l'album sort un 45 tours qui obtiendra un grand succès en France. Un an plus tard sort le 45 tours L'Arbre de Juin qui voit participer dans les chœurs Daniel Balavoine. En 1972, le groupe est à Bobino puis à l'Olympia en première partie de Robert Charlebois. Le succès induit tensions et divergences au sein du groupe que Gérard Fournier quitte. Il tente une carrière solo, mais sans succès. Alors arrive dans le groupe René Deveau à la basse, puis Denis Duhazé à la guitare et au chant. Avec l'apport de cette seconde guitare, le son du groupe se durcit, sans pour autant perdre les sonorités jazzy dues au cuivre de François Janot. Un nouvel album sort, homonymie, et 4 45 tours, enregistrés en partie au studio Abbey Road à Londres, avec d'ailleurs Stéphane Grappelli qui joue sur l'un d'entre eux, éloge de la folie. Le groupe se dissout durant l'année 74 après la publication d'un dernier 45 tours, un ticket pour, et l'autre face étant avec 10 mois, et qui fut en réalité très très mal distribué. A noter les disparitions de Gérard Fournier en janvier 89, Jean-Pierre Prévotat en janvier 2011, alors qu'il était le batteur de Johnny Hallyday, puis le décès de Mimi Lorenzini en décembre 2014. A noter la sortie d'un coffret en CD en 1997, reprenant l'intégrale du groupe. Pour le moment, écoutons « Viens avec nous », le plus grand succès du groupe.
Hey!
chanter Viens avec nous du groupe Triangle sur Oxy Web Radio. Avec l'arrivée d'Ange, on entre dans un nouvel univers. Originaire de Belfort, d'Héricourt exactement, et de Vesoul, en Franche-Comté, il est formé à la fin de 1969 par Christian Descamps, Jean-Michel Présauvard. Francis, frère de Christian, les rejoint vite. Au début, la musique du groupe s'inspire de textes médiévaux fantastiques intégrés à du rock progressif. Après de nombreux changements de musiciens et le retrait de Francis, le groupe tourne encore, conduit par Christian Descamps et son fils Tristan Descamps, avec de multiples déclinaisons du rock progressif, offrant au groupe un univers plus étendu, quoique très éloigné de l'inspiration et du son originel. Le groupe aura, durant sa période des années 70, cumulé 6 disques d'or et plus de 3 millions d'albums vendus. Le groupe est formé au quatrième trimestre 1969, de la fusion de l'orchestre de Bâle, que dirigeait Christian Descamps, qui s'appelait Les Anges, et du groupe de son frère, Francis, qui s'appelait Évolution. Christian a déjà plusieurs années de pratique de groupe pop et de Bâle, et Francis tend plutôt vers le rock. En janvier 1970, Ange se fait connaître à Belfort, au centre culturel de la Pépinière, avec un très long opéra de 3 heures, la fantastique épopée du général Machin. Composé par Christian sur son tout nouvel orgue Hammond. Des extraits live de ce concert se trouvent sur le double album publié par RCA en 1978, sans l'accord d'ailleurs du groupe, et qui retrace les années 1970-1971 en concert. Après plusieurs passages à Paris, au Golf de Rouault, le groupe finit par remporter le tremplin et signe chez Philips Records, enregistrant immédiatement son premier single, Tout feu, tout flamme, et cela à la fin de 1971, et voici donc Tout feu, tout flamme.
Que ça dans j'ai mon cœur.
C'était Tout Feu Tout Flamme par le groupe Ange sur Oxy Web Radio. Soutenu par le magazine Best avec le journaliste Hervé Picard, par Jean-Bernard Hébé sur RTL, Ange sort son premier album, Caricature, en 1972. Sur leur rock théâtral et poétique, Christian Descamps, le leader et chanteur du groupe, utilise des mots et des tournures de phrases rares dans le milieu musical rock, donnant à un groupe une originalité qui le démarque des autres formations françaises de l'époque. Pendant l'été 1972, le groupe tourne en première partie de Johnny Hallyday et de son Johnny Circus. Leur premier succès vient de leur reprise de Ces gens-là, de Jacques Brel, sur l'album Le cimetière des Arlequins, paru en 1973. Une remarque, dommage qu'il n'ait pas osé garder le paragraphe sur Frida. Le 26 août 1973, Ange fait un triomphe devant 30 000 spectateurs au Reading Festival, à l'affiche avec Genesis, The Spencer Davis Group et John Martin. En 1974, paraît l'album Au-delà du délire, contenant des titres emblématiques du groupe comme Les longues nuits d'Isaac, Fils de lumière, Si j'étais le Messie, et ainsi que le titre qui a donné le nom à l'album, évidemment Au-delà du délire. Ces morceaux marqueront durablement le rock français. En 1977, les concerts du Ange Tour 77, véritable show marathon, durent jusqu'à 2h20 chaque soirée. Le groupe en sort totalement épuisé. Dans ses premières années, les autres membres du groupe sont Jean-Michel Brézovard à la guitare, Francis Descamps au clavier, Gérald Schech à la batterie et Daniel Haas à la basse, et parfois à la guitare acoustique. Jusqu'à l'album Au-delà du délire, paru en 1974, la formation sera celle d'origine. Puis se succéderont plusieurs musiciens autour du duo des frères Descamps, avec entre autres les passages de Jean-Pierre Guichard, Claude Demay, Robert Defer, Frédéric Chouachtaki et Serge Queneau. Comme je le disais dans l'introduction, le groupe Ange existe toujours autour de l'inusable Christian Descamps. Écoutons cette formidable version de Ces gens-là de Jacques Brel, parue en 1973, même si j'ai beaucoup hésité avec la reprise du Bal des Lazes de Paul Naref.
D'abord, y a l'aîné. Qui est comme un melon, vu qu'a un gros nez, vu qui sait plus son nom, cieux, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie. Comme un cierge de Pâques, puis qui balbutie, qu'à l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, non, on ne pense pas. On prie. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux. Jamais vu un peigne qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qu'a marié la Denise, une fille de la ville, enfin d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir. Monsieur, on ne vit pas. On triche. Puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade. Et la soupe froide, et ça fait des grands, ça fait des grands. Et puis il y a la toute vieille
pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qu'a l'oseille, qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres m'a raconté. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas.
Et ces gens-là, par le groupe Ange, sur Oxy Web Radio. Le groupe suivant s'appelle Zoo. Ça s'écrit comme un zoo. C'est un groupe de rock progressif. Il est originaire de Paris et il était anciennement localisé à Nantes, en Loire-Atlantique, et fut actif de 1969 à 1972. Il s'est reformé rapidement en 2010 sous le nom de Zoo Tribute Original. Zoo est formé en 1968 et issu du groupe Les New Strangers de Joe Daidey au chant, Daniel Carley, saxophone, ténor et violon, Michel Hervé à la basse, se rapprochant des musiciens de studio, Pierre Fanen à la guitare, Michel Ripoche, saxophone, ténor, violon, trombone, Tony Canal à la trompette, André Hervé, Christian Deveau à la batterie et Michel Bonnecarrère, guitare et composition. En 1969, 9 musiciens participent donc aux tournées et se constituent un répertoire particulier, coloré par les multi-instrumentistes qui composent le groupe, solidement assis sur une base rythmique très jazzy. Le groupe entre en studio en avril 1969 et après 2 jours d'enregistrement, les 8 premiers morceaux sont dans la boîte. Barclay ne sortira cet enregistrement qu'après le succès commercial des albums de Chicago Transit Authority et de Blood, Sweat and Tears, dont Zoo est quelque part un peu une rémanence. Le chant profond et rock de Joe Daidey caractérise ses titres. En novembre 69, a lieu le festival d'Amugis où Zoo côtoie notamment Pink Floyd, Colosseum, The Nice, Esther F. Eden et Frank Zappa et s'y taille un bon succès. En 1970, des divergences musicales apparaissent, elles sont d'ordre relationnel et financier, et conduisent Joël Daidey et Pierre Fanen à quitter le groupe. Privé de chanteur, Zoo va par l'intermédiaire d'une petite annonce dans le Melody Maker recruter le chanteur anglais Ian Bellamy. Le deuxième album est enregistré durant l'été 1970. Dans ce nouvel opus, les violons prennent le pouvoir, reléguant les cuivres au second rang, à l'exception de quelques titres comme Anders Ward. L'album est programmé et sert d'indicatif pour les radios américaines telles que War FM et WBC FM, deux des plus grosses stations new-yorkaises. Mais écoutons la voix si particulière de Joël Daidey.
Mine. You hustle your way in the little country town, but you can't get over there, everybody turn you down.
C'était If You Lose Your Woman par le groupe Zoo avec Joël Daïdé au chant sur Oxy Web Radio. Notre entretour de compilation réalisé par Robin McBride sort aux États-Unis sous le label RCA. Il obtiendra un succès. Le groupe enregistre avec Léo Ferré, Le Chien et la Zenana et avec Eddie Mitchell sur Dodo, Boulot, Métro. À la fin de l'année 70, les voient se produire en Angleterre, dans plusieurs clubs et universités, en particulier au Ronnie Scott's de Londres, où ils partagent l'affiche avec Charlie Mingus, rien que ça. Ils donnent également des concerts en France, au Hall de Paris, courant novembre, et l'année 71 est chargée en collaboration, ce qui gêne un peu la sortie des titres du groupe. Classé second au Grand Prix de la pop française, Zoo participe au festival en vogue de cet été. Vient ensuite l'Olympia en octobre 71. Seuls 2 45 tours sont produits donc pour l'année 71. Le premier est une bande originale du film Les Jambes en l'air avec Francis Blanche. Le second est un signe avant-coureur du futur album qui s'appelle Hard Time, Good Times. Sorti en mai, le single est alors le plus gros succès discographique du groupe. Il est vendu à 12 000 exemplaires. Léo Ferré vient les rechercher pour réaliser l'album La Solitude, avec l'apport sur une majorité de titres des orchestrations de Zoo. Collaboration avec l'artiste se conclut par une tournée et 7 jours de concert à guichet fermé à la Mutualité. En 1972 sort l'album donc Hard Times, Good Times, qui restera le plus vendu de groupe. Il bénéficie de parutions outre-Manche grâce à RCA et outre-Atlantique avec Warner Bros. Pourtant, malgré la sortie du dernier 45 tours Life is Living, cela ne change rien à l'inéluctable séparation survenant en octobre 72, frappé par le manque de chance qui lui fait rater des tournées dans les pays anglo-saxons. Par la suite, chaque membre, ensemble ou séparément, produiront des albums intéressants, certes, mais qui sont restés méconnus. Hard Times, Good Times du groupe Zoo sur Oxy Web Radio. Avec les variations, on trouve un groupe qui fut un des rares à percer sur la scène du hard rock et du blues rock pour un groupe français, d'autant plus qu'il était d'origine marocaine et qu'ils ont chanté la plupart de leurs chansons en anglais. Formé à Paris en septembre 1966 par des musiciens de confession juive et originaire du Maroc, influencés par les Rolling Stones et les Chaussettes Noires. Ils participent d'abord à des tremplins, puis en 1967, le groupe se lance dans une tournée en Allemagne, puis au Danemark, où il enregistre son premier single, Mustang Sally, sorti sur le label Triola. Le groupe enregistre un second single, Come Along, en 1969, assurant les premières parties d'artistes tels que Johnny Hallyday, encore lui, Led Zeppelin ou Steppenwolf, c'est déjà plus rare. Ils partent ensuite à Londres pour enregistrer leur premier album, Nador, en 1970, et participent à de nombreux festivals. En 1971, le chanteur, Joe Leb, quitte le groupe pour revenir un an plus tard. Durant une tournée aux États-Unis, le groupe enregistre un de ses morceaux les plus connus, « Je suis juste un rock'n'roller ». Il passe par Memphis, où Don Nix, de chez Stax Records, produit leur second album, « Take It or Leave It », en 1973. Le groupe se produit en Amérique avec les New York Dolls, un groupe qui faisait un glam rock, en 1973, et il commence l'enregistrement d'un nouvel album, Bon Rock and Roll, en 1974, qu'ils termineront en France. Joe Leb est remplacé par Robert Fitoussi pour l'enregistrement du dernier album, Café de Paris, paru en 1975, et le groupe décide de se dissoudre la même année. À la fin novembre 2006, le groupe se reforme pour un concert à Paris. Il revient ensuite en 2012, et c'est au fond le seul groupe français ayant eu une véritable carrière aux États-Unis. Ceci dit, peut-être au détriment de la scène française, où ils étaient relativement méconnus. Voici donc leur grand tube, Only You Know and I Know. C'est Only You Know and I Know par les variations sur Oxy Web Radio. Je sais que certains d'entre vous me reprocheront de ne pas parler de MACMA, groupe fondé en 1969 par le batteur Christian Vander et le bassiste Laurent Thibault. Pour autant, je promets qu'un jour, je leur consacrerai une véritable émission. Là, je pense, ça aurait été un peu compliqué, vu le temps imparti. Sinon, pour le reste, vous avez pu remarquer que les meilleurs groupes français des 70s étaient plus inspirés du jazz et du rock psychédélique plutôt que directement du blues. En fait, il faut plonger dans leur répertoire pour s'apercevoir qu'ils connaissaient quand même et maîtrisaient assez bien cette musique. Pour ce qui est de leur influence, je pense que cela découle plus des circonstances que de l'intention. La qualité assez élevée des musiciens d'une part, souvent formés à l'école du jazz, depuis longtemps très présents en France et bien soutenus par l'intelligentsia parisienne, explique pour moi cette prédominance. En outre, la rivalité avec leurs concurrents britanniques ou américains les incitait sûrement à s'en démarquer plutôt que de tenter d'en faire de pâles imitations. Et puis le soutien des maisons de disques françaises n'était pas aussi efficace que chez les anglo-saxons. Mais cela n'engage que moi, je le reconnais. Il reste de cette époque une série de disques intéressants qui mériteraient d'être ressortis pour mieux en mesurer la qualité et l'originalité. En tout cas, ils auront ouvert la voie aux Bill Durham, Paul Persson ou Hubert Félix Stephen, déjà actifs à l'époque, mais dont les carrières ne débuteront véritablement qu'après 1975. Téléphone, après 1976, Trust, Rita Mitsuko et d'autres encore dès les années 80. La semaine prochaine, je vous parlerai de Joni Mitchell et de ses années 1968 à 1971. Mais d'ici là, ben, roulez blues.